à la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Servez Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu où coulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Dans le chapitre 4, chapitre 3 d'abord. Chapitre 3, verset 14. Et il arriva que, lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance allaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que le les sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau. Or, le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords sous le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau très loin, près d'Adamville, qui est à côté de Sardan. Et celles qui descendaient à la mer de la plaine, la mer salée, s'écoulèrent complètement. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui prenaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Et Israël passa à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué disant, prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, enlevez ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds, les sacrificateurs, 12 pierres, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Et Josué appela les 12 hommes, qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre, sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque dans l'avenir vos fils vous demanderont, disant, que signifie pour vous ces pierres? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre des tribus des fils d'Israël. Et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement et les posèrent là. Et Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles sont là jusqu'à ce jour. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche s'arrêtèrent au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fût exécuté selon tout ce que Moïse avait commandé à Josué. Et le peuple se hâta et passa. Et quand tout le peuple eut achevé de passer, il arriva que l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Dans le chapitre 5, au verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. » Et Josué fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aran. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, en chemin, après être sorti d'Égypte. Car tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert, en chemin, après être sorti d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Car les fils d'Israël avaient marché dans le désert 40 ans, jusqu'à ce qu'eût péri toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, auquel l'Éternel avait juré de ne point leur faire voir le pays, que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel. Et il suscita leurs fils à leur place, ceux-là Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Et il arriva que, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp, jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Mais l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et on appela le nom de ce lieu-là Gilgal jusqu'à ce jour. Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme un chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens et saint. » Et Josué fit ainsi.
Et les lieux célestes. Quel panorama, chers amis, que celui-ci qui est placé aujourd'hui encore devant nos regards, les regards de notre foi. Je lirai quelques versets dans ce chapitre 34 de Deutéronome qui est devant nos yeux. Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, le sommet du Pisgah, qui est vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda, jusqu'à la mer d'Occident, et le Midi, et la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville épargnée jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je te le donnerai, je le donnerai à ta semence. Comme Moïse sur le mont Nebo. Ce sommet qui surmontait la plaine de Moab, à l'est du Jourdain. Comme Moïse, nous avons le privilège, nous aussi, de dominer, pour ainsi dire, le pays de la promesse, mais cela d'une manière spirituelle. Et nous remarquons combien ici le Seigneur a cœur de lui montrer le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, les diverses portions de cet héritage. Nous remarquons aussi que l'Éternel dit à Moïse, c'est le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. En effet, si nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, nous voyons au verset 18, Genèse 15, 18, en ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Nous nous trouvons, chers amis, devant les conseils de Dieu, devant le propos de Dieu quant à Christ et quant à son assemblée. C'est le sujet de l'Épître aux Éphésiens. Les conseils de Dieu, son propos quant à Christ et quant à l'Église, corps de Christ étroitement associé à son chef, dans sa position glorieuse actuelle. Et lorsque l'Éternel présente déjà à la foi d'Abraham le pays de la promesse, il en donne des limites très étendues. Nous remarquons, depuis le fleuve d'Égypte, et ici, dans l'original, il s'agit d'un fleuve au même titre que l'Euphrate et le Jourdain, c'est-à-dire un grand fleuve, c'est-à-dire la limite s'étend jusqu'à la frontière d'Égypte. Très probablement, la limite ici est la partie est du delta du Nil. Et ensuite, elle va jusqu'au fleuve. Cela montre l'étendue des conseils de Dieu, de son propos d'amour pour, ici il s'agit de la semence d'Abraham, pour la semence terrestre d'Abraham, mais nous savons aussi que la semence d'Abraham, l'apôtre Paul nous le dit, c'est Christ. Et en Christ, nous avons ainsi, nous aussi, toutes nos bénédictions. Et si le livre de Josué nous donne ainsi des limites géographiques, pour ainsi dire, nous devons le prendre dans son sens, dans le sens qu'il a pour c'est-à-dire typique, c'est-à-dire en figure. Le livre de Josué va nous présenter justement l'étendue de notre héritage. Et nous voyons d'ailleurs que dans le chapitre 1er, qui est devant nous maintenant, la limite du pays au sud, au sud-est du pays, c'est bien le fleuve Euphrate. Ceci pour nous dire que si dans le livre des Nombres, au chapitre 34 du livre des Nombres, nous avons aussi des limites très précises qui nous sont données, et en particulier, nous trouvons au sud une frontière qui se trouve au milieu du Sinaï, le torrent d'Égypte cette fois-ci, c'est-à-dire un fleuve qui existe encore aujourd'hui et qui forme encore actuellement la frontière entre Israël et l'Égypte. C'est le fleuve El Arish. Mais c'est un torrent qui s'assèche l'été. Et nous avons donc ici cette limite, et puis nous avons la mer, la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée, et puis nous avons à l'est le Jourdain, la mer de Kinneret, verset 11, c'est-à-dire qui sera appelée ensuite mer de Galilée, lac de Galilée, puis verset 12, le Jourdain. Eh bien, ici, ce sont, pour ainsi dire, les limites que le peuple allait effectivement posséder. Et c'est dans ces limites-là, pour ainsi dire, que nous sommes appelés, nous aussi, c'est les limites qui sont les nôtres, dans un sens, quant à la réalisation effective du pays de la promesse. Pour l'instant, n'est-ce pas, notre connaissance du pays de la promesse est limitée. Parce que nous voyons au travers d'un verre, obscurément, comme dit l'apôtre, mais lorsque le Seigneur sera venu, alors nous verrons face à face. Alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors nous jouirons pleinement de la gloire qui nous est réservée dans les cieux. Le pays de la promesse, Canaan, les lieux célestes, qu'est-ce ? Eh bien, nous comprenons tout de suite que d'abord, Canaan, ce n'est pas, comme vous pourrez le penser, ce n'est pas avant tout ce pays dans lequel nous allons parvenir. Je veux parler là des lieux célestes tels que l'Épître aux Éphésiens nous les présente, pratiquement. Ce n'est pas ce lieu à venir dans lequel nous allons, ce pays à venir dans lequel nous allons entrer, le ciel, celui dont nous parle le cantique de Canaan, qu'en verrons-nous le céleste. Cela, c'est encore à venir, à la fin de notre course, et en particulier lorsque le Seigneur sera venu chercher son Église. Mais les lieux célestes, tels que nous les présentent les Épîtres aux Éphésiens, eh bien, c'est un domaine spirituel, une sphère spirituelle, qui se définit comment ? Elle se définit, je pense, avant tout par le fait que le Seigneur y est assis. Il nous est dit au début de l'Épître aux Éphésiens, que dans ce premier chapitre des Éphésiens, que au verset 20, que Dieu a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir, et il a assujetti, Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Les lieux célestes, c'est donc ce domaine spirituel où nous sommes étroitement associés à Christ, car dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons l'assemblée étroitement unie à Christ, son chef, et notre position, c'est justement d'être assis en lui dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est aussi un lieu, et cela est une vérité sur laquelle il est bon de s'arrêter, c'est un lieu, c'est une sphère dont il nous est dit que Christ est assis au-dessus de toute principauté et autorité. Nous savons par l'Épître aux Éphésiens que dans les lieux célestes se trouvent aussi les principautés de méchanceté, Satan, ses anges, qui veulent nous empêcher de prendre possession pratiquement de ce pays qui est le nôtre dès aujourd'hui. Cela est une chose mystérieuse, mais qui est placée devant nous et à laquelle nous devons être très attentifs. En particulier, nous avons le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens qui nous montre ce combat dans les lieux célestes. C'est donc à la fois les lieux célestes, un lieu où en Christ nous connaissons notre position et nous sommes dans un parfait repos en lui, parfait de repos de la conscience et du cœur, mais aussi c'est un lieu où nous devons combattre. Si nous voulons le posséder pratiquement, nous devons combattre. Il faut y avancer, il faut poser la plante de notre pied sur ce sol divin, pour ainsi dire. Spirituellement parlant, poser la plante de notre pied sur ce terrain Donc, nous avons cette vision merveilleuse, ce panorama merveilleux, et encore quelques pensées très courtes. Moïse a été le conducteur du peuple dans le désert. Moïse meurt. Christ est notre soutien dans notre course dans le désert. Josué va être le conducteur du peuple en Canaan. Josué, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est aussi l'Esprit de Christ. Et c'est Christ en Esprit qui est ainsi en nous et parmi nous. C'est Christ lui-même qui est en nous et parmi nous dans la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait que ces deux types de Moïse et de Josué forment une suite magnifique. Il y a aussi le Jourdain. Le Jourdain, fleuve de la mort. Et cela va être aussi placé pour nous. Pour pénétrer dans le pays de la promesse, il fallait absolument, impérativement passer par le Jourdain. Et les deux tribus ennemies, dont nous n'avons pas lu l'histoire ici, qui voulaient posséder un territoire en deçà du Jourdain, qui voulaient anticiper, pour ainsi dire, des bénédictions, sans traverser le fleuve, Josué est obligé de leur dire, ce n'est pas ainsi qu'il convient devant Dieu. Alors il faut impérativement que pour nous, spirituellement, nous traversions ce fleuve de la mort. Christ l'a traversé avant nous, sur la croix. Il est ressuscité et nous sommes aussi morts et ressuscités avec lui. Et alors, Josué conduit le peuple, le Saint-Esprit nous conduit. Ces trois vérités précieuses, mort avec Christ, ressuscité avec lui, et dans le pays de la promesse, conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ.
Peut-être pas sans intérêt de rappeler quelques éléments. Quelques éléments essentiels liés à ce grand capitaine Josué, type en effet de l'Esprit de Christ agissant au milieu des siens en vue de la conquête et de la possession du pays de la promesse. Josué, type de Christ, il en porte le nom. Si l'on lit la note au bas de Néhémie 8, on verra que son nom, Josué, en hébreu, c'est Jésus. Et si on retranche deux lettres, on a Jésus. Josué, Jésus, c'est le même nom. Dans la première édition du Nouveau Testament, traduit en français par Guyende, 1846, et notre mémoire est fidèle, dans l'Épître aux Hébreux, nous avons un verset, si Josué leur avait donné le repos, mais Guyende a traduit, si Jésus leur avait donné le repos. Jésus, Josué, c'est le même nom. Josué, type de Christ, qui est placé devant nous dans les conditions et les circonstances qui viennent d'être rappelées, est d'un intérêt sans pareil. Il a vu mourir tous ses compagnons. 40 hommes, chaque jour, sont morts au désert, sans compter les femmes et les enfants, sans doute. 600 000 hommes de pied, on l'a rappelé tout à l'heure dans la lecture, 600 000 hommes de pied sont disparus. Josué est toujours sur la scène. Quand nous ouvrons son livre, il doit avoir aux environs de 90 ans. Nous savons que Dieu l'a repris à l'âge de 110 ans. Et la conquête du pays, c'est-à-dire le temps sur lequel ce livre s'étale, dure environ 20 ans. Cela veut dire qu'à la sortie d'Égypte, Josué avait environ 50 ans. Il a été formé à l'école et aux côtés de Moïse. Josué sera le continuateur de l'œuvre de Moïse. Il va couronner, parfaire l'œuvre que Moïse avait commencée. Dieu a toujours eu des serviteurs appropriés aux conditions et aux nécessités dans lesquelles se trouve le peuple à un moment donné. Pour sortir d'Égypte, Moïse est suscité sur la scène. Pour la traversée du désert, Moïse et Aaron. La sacrificature qui avait été décriée par le peuple est pourtant celle en vertu de laquelle, et la ressource de Dieu en vertu de laquelle le peuple arrivera aux frontières du pays. Et maintenant, au moment où nous allons franchir le Jourdain et faire la conquête de ce pays, c'est Josué. Un homme d'élite, est-il dit. Josué, en qui est l'esprit, un homme aux qualités exceptionnelles. La première fois que nous le rencontrons, c'est dans la guerre contre Amalek. On vient de franchir la mer Rouge et déjà l'ennemi est à l'œuvre pour empêcher le peuple d'avancer, d'aller vers l'avant. Josué, première grande mention de lui, c'est son courage, son obéissance et la victoire qu'il remporte en Exode 17 sur la puissance d'Amalek, c'est-à-dire la chair au service de Satan qui s'oppose toujours à la marche du peuple de Dieu vers l'avant. La deuxième grande mention de Josué, c'est qu'il monte sur la montagne en Exode 24. Il va assister à des scènes d'une portée et d'une lumière saisissante. Il sera avec Moïse sur la montagne et il va demeurer là, sur la montagne, avec Moïse, pendant tout le temps des entretiens entre l'Éternel et Moïse. Il va redescendre de la montagne, mais n'a pas l'oreille aussi fine que Moïse. Il va dire à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Moïse, par la communion intime avec l'Éternel, a mieux compris la portée des circonstances et des noms de Josué. Ce n'est pas un bruit de guerre, encore moins de triomphe. C'est un bruit de confusion, de défaite. Le peuple, hélas, est déjà tombé dans le péché. Josué va assister à ces scènes douloureuses. Il sera avec Moïse pour occuper la tente d'assignation dont lui ne sortira pas. Pendant que Moïse agit au dehors, Josué est formé à l'intérieur de la tente d'assignation, ce que nous trouvons dans Exode 33. Il sera jaloux pour Moïse, incident raconté dans Nombre 11, et ensuite sera désigné pour pénétrer dans le pays de Canaan avec les espions. Il sera choisi de la tribu d'Éphraïm. C'est donc un descendant de Joseph, prince de la tribu d'Éphraïm, va pénétrer dans le pays. C'est dans cette occasion que son nom de Osée, qui veut dire délivrance, est changé en celui de Jéhoshua ou Josué dans notre langue, qui veut dire l'Éternel est sauveur. Moïse change son nom. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement besoin de délivrance, mais nous avions surtout besoin d'un grand sauveur, dont Josué est le type. Ensuite, il a été fait allusion aussi aux privilèges, aux prérogatives de Josué. On trouve cela dans Nombre 27, et il y a un passage assez remarquable, c'est que l'Esprit de Christ, que nous trouvons en type dans Josué, est lié à la sacrificature exercée par notre Seigneur Jésus-Christ, sans doute, par Éléazar, dans le Nombre 27. On voit dans le verset 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'Esprit, pose ta main sur lui. » L'imposition des mains de Moïse à Josué nous fait penser à celle de Paul à l'égard de Timothée. « Et tu le feras se tenir devant Éléazar, verset 19, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. » Alors nous avons là Christ dans la puissance de l'Esprit, désigné pour la conquête du pays, mais en fait il est lié à la sacrificature exercée par Éléazar. De sorte que, de fait, la présence et les opérations du Saint-Esprit dépendent de la présence de Christ glorifié qui a traversé les cieux. car c'est en vertu de l'exaltation de Christ que l'Esprit est descendu sur la terre. Et n'est-ce pas remarquable que Josué doit se tenir devant Éléazar, le sacrificateur, qui occupe une fonction de la plus haute importance à la fin de Nombre 27. Donc quelques éléments intéressants sur la personnalité de Josué, ce jeune homme d'élite. Et maintenant, en ouvrant le livre, il commence précisément par cette conjonction « et » pour le rattacher à tout ce qui précède. Dans le prophète Ézéchiel, premier chapitre, premier verset, nous avons la même disposition. C'est-à-dire que tout ce que ce prophète va nous dire se rattache à ce qui a déjà été dit par ses contemporains, par Jérémie notamment, et par tout ce qui précède dans l'histoire qui se termine, dans l'histoire du peuple de Dieu qui se termine de façon si saisissante, si solennelle par le jugement. Et il arriva en la 30e année, l'Esprit de Dieu nous souligne par cette manière d'introduire les choses qu'il nous faut rattacher le sujet qui est devant nous à ce qui précède. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Josué qui va parfaire et couronner l'œuvre que Moïse a entreprise et qu'il ne pourra pas terminer en raison des circonstances dans lesquelles il n'a pas glorifié Dieu. Mais, dernier point, on a rappelé dans Deutéronome 34 quel privilège pour Moïse de voir de long en large, du nord au sud et d'est en ouest, tout le pays que l'Éternel y montre. Et dans l'axe de la vue de Moïse, il y a un endroit à partir duquel et duquel tout dépendra. En regardant, Moïse voit la mer Méditerranée sans doute, mais son regard passe par-dessus Bethléem.
Pays, on peut dire qu'on a dans l'ordre suivant la promesse qui a été faite à Abraham dans plusieurs occasions. On a la vision telle que Moïse a vue dans Deutéronome 34, déjà citée plusieurs fois. Et enfin, on a la possession. À la fin de Deutéronome. Il est remarquable que cette promesse à Abraham soit faite en plusieurs occasions bien caractéristiques. La première fois, c'est en Genèse 13, c'est le moment où il a laissé Dieu choisir pour lui. Il a laissé Dieu, il a laissé Lot faire son choix le premier. Autrement dit, il a fait confiance à son Dieu pour lui donner ce qu'il avait décidé. Quand on fait confiance à Dieu, on peut être sûr qu'il nous donnera ce qu'il y a de meilleur. Et c'est en Genèse 13, au verset 14, alors que nous avons la première fois cette promesse avec toutes ses dimensions. Après que l'homme se fut séparé de lui, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord et vers le midi, et vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai et à ta semence pour tous. On a donc là aussi les quatre points cardinaux que nous avons retrouvés dans le premier chapitre de Josué. Toutes les dimensions. Dieu n'est pas un Dieu qui limite, qui borne notre horizon. Il veut l'élargir au contraire et nous donner, c'est un Dieu qui donne, un Dieu qui donne sans mesure. Les limites viennent toujours de notre côté. La seconde occasion, c'est après Genèse 14, c'est aussi un moment important dans l'histoire d'Abraham, c'est le moment où il a renoncé à ce que le roi de Sodome lui proposait. Et Dieu lui dit, alors au chapitre 15, eh bien c'est moi qui suis ta récompense. Tu n'as pas t'es tenté par ces biens du roi de Sodome, tu les as repoussés, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et Dieu lui fait ses promesses qu'on nous a mis tout à l'heure. Et la troisième occasion, nous savons bien en Genèse 22, après le sacrifice d'Isaac, Il nous présente donc un moment particulièrement solennel, c'est-à-dire, pour ainsi dire, les fruits de l'œuvre accomplie. La possession du pays, elle résulte de l'œuvre dont nous avons chanté tout à l'heure qu'elle était terminée, et l'œuvre de grâce est terminée. Ainsi, on peut dire que Dieu fait ses promesses en relation avec l'œuvre de Christ et qu'il nous donne d'en jouir en fonction de l'abandon d'autres choses, dans la mesure où nous le désirons. Et puis alors il y a la vision, et c'est bien remarquable qu'avant la possession, il faut avoir conscience de la valeur de l'enjeu. Si on n'a pas un but bien précis, on ne combat pas de toute son énergie. Dieu commence par donner, Dieu commence par promettre, il commence par montrer, et ensuite il dit, eh bien, voilà, maintenant, à vous de prendre possession de ce que je vous ai donné. Comprenons donc bien, n'est-ce pas, la partie spirituelle de tout cela. Dieu donne, mais nous nous emparons du don. Nous n'avons pas un don que quelqu'un nous propose si nous ne tendons pas la main pour le prendre. Il y a donc deux côtés de celui qui est bénéficiaire du don, l'énergie de la foi pour en prendre possession, et ce sera ce livre de Josué. Mais il commence, et c'est bien remarquable, par les limites du pays, de même que la structure de l'épître aux Éphésiens, c'est bien d'abord la description des immenses richesses de grâce et de gloire qui sont à nous. Et ensuite seulement, nous avons les combats pour nous en emparer. La marche pratique qui correspond. C'est la manière digne de l'appel dont nous avons été appelés, mais Dieu commence par nous parler de cet appel et par nous dire combien nous sommes riches en Christ.
Il y a des mentions qui devient la base de l'alliance inconditionnelle faite avec Abraham. Pas remarquable que dès la première parole dite par l'Éternel en Genèse 12, nous en avons la portée générale. D'abord, je te ferai devenir une grande nation, et donc la semence terrestre, la descendance d'Abraham, qui sera une grande nation, et que Dieu bénira. Ensuite, dans le verset 3, et je bénirai ceux qui te maudiront, etc., et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc là, une semence spirituelle tirée du milieu des gentils. Confirmée en Genèse 22, parce que tu as fait cette chose-là, la semence terrestre et la semence céleste sont présentées devant nous, le sable de la mer d'une part et les étoiles en nombre d'autre part pour nous montrer ce que serait cette semence spirituelle. Et passage que nous ajoutons, précisément confirmer ce que notre frère vient de dire, dans Deutéronome 9, on peut voir un verset fort important à cet égard, car c'est bien l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham que nous avons dans Josué. Nous trouvons en Deutéronome 9, ce pays, au milieu du verset, ces nations, l'Éternel, les dépossède devant toi afin de ratifier, remarquons l'expression, ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu te donne au verset 6 ce bon pays afin de ratifier sa parole. Et nous l'avons à la même page au chapitre 8 et au verset 19. L'Éternel, au verset 18, au milieu du verset, en haut de la page, c'est lui qui te donne de la force pour acquérir richesse.
Au-delà du Jourdain, le peuple prenait possession du pays. C'est l'histoire qui nous est racontée dans le livre de Josué. En passant, très rapidement, nous pouvons rappeler que les 24 chapitres du livre de Josué divisent essentiellement 2 fois 12. Les 12 premiers nous racontent la conquête du pays, et les 12 derniers nous racontent la répartition du pays entre les tribus. Le chapitre 24 se termine par, au fond, les adieux de Josué au peuple, après que la conquête du pays était bien entamée mais pas complètement terminée. Et la chose merveilleuse, c'est qu'on trouve, en même temps que la fin de Josué, un souvenir de ce que Joseph a été lorsqu'il avait donné des instructions, des ordres par la foi, touchant son ensevelissement, touchant ses os, sa sépulture. Et ceci nous est rapporté en même temps que le dernier mot sur Josué nous est rapporté en rapport avec Joseph. Puisque Josué était un descendant de Joseph, notre frère M. Finet vient de le rappeler. Les 12 premiers chapitres de Josué, en fait, se divisent eux aussi entre les 6 premiers et les chapitres 7 à 12. Dans les 6 premiers, on ne trouve que des victoires, et on trouve en effet que véritablement des conseils de Dieu. Le peuple traverse le Jourdain, et pour ainsi dire, à la fin de la prise de Jéricho, moralement, on peut le dire, tout est terminé, puisque la puissance de l'adversaire est détruite complètement. Mais ensuite, il fallait des applications. L'homme intervient, la faiblesse humaine intervient. Josué n'est pas seulement un type merveilleux de Christ, mais c'est aussi un être humain, un être faible, un vase faible dans lequel le trésor de la connaissance de Dieu était bien posé, et un vase qui, par le fait même qu'il était humain, était sujet à des défaillances. Deux grandes défaillances ont marqué la vie du peuple dans le pays de la promesse, dans les chapitres 7 à 12. La première, c'est l'affaire d'Acan, c'est le monde dans le cœur. La deuxième, c'est l'affaire de Gabaron, c'est le monde dans la marche. Voilà les deux grands dangers du chrétien. Puis à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, c'est la répartition du pays, de la promesse, entre les différentes tribus. Une chose remarquable qui se présente à nous, c'est que le Jourdain, je crois notre frère Dietrich le rappelait tout à l'heure, n'est pas une des limites du pays. Et pourtant, c'est une étape essentielle. La limite du pays, du côté de l'Est, c'était l'Euphrate. Abraham avait été tiré de l'autre côté de l'Euphrate. Il était introduit dans sa semence, dans le pays de la promesse. Donc on peut dire que les deux tribus ethniques qui sont restées en deçà du Jourdain n'ont pas véritablement perdu leur caractère de tribu appartenant au peuple terrestre, au peuple d'Israël. Elles sont complètement trompées, elles sont restées bien en deçà de ce qu'était la pensée de Dieu à l'égard de son peuple, qui était de l'introduire au-delà du fleuve de la mort dans les bénédictions d'ordre moral et spirituel. Et on a souvent remarqué que ces deux tribus ennemies ont été les premières qui ont perdu leur héritage. Puisque au temps d'Akab, il nous a dit, ne savez-vous pas que Ramoth de Galaad est à nous, il était déjà tombé aux mains des ennemis. De sorte que si nous voulons être des croyants heureux, fidèles à Christ, il faut obligatoirement traverser le Jourdain. Ce n'est pas essentiellement comme la mer Rouge, Christ mort pour nous, mais c'est notre identification avec Christ dans sa mort pour la délivrance. Au-delà du Jourdain, la chose remarquable, c'est qu'on ne trouve pas le repos. De ce point de vue-là, le livre de Josué n'est pas le livre qui nous introduit dans, on peut le dire, essentiellement, le repos avec Christ, bien qu'évidemment, ces choses soient notre part précieuse. Il nous introduit dans la bataille, dans la guerre. Ce qui caractérise le livre de Josué, c'est la guerre. C'est le combat. Le combat ne caractérisait pas essentiellement le désert, mais que, bien que les ennemis se soient trouvés pour essayer d'empêcher le peuple de traverser le désert et d'arriver jusqu'au pays de la promesse. La première chose qui se présente, c'est l'épée de l'Éternel, nue dans la main de l'ange, devant Josué, et ce sera le combat.
La seconde portion qui nous a été lue, qui présente une importance si grande dans l'application pratique spirituelle pour nous, le passage du Jourdain, l'entrée dans le pays. Il y a trois délivrances dans l'histoire du peuple qui, toutes les trois, sont accomplies pour nous à la croix du Seigneur.
la délivrance de sous la colère de Dieu, figurée par la Pâque, la délivrance du pouvoir de Satan et du monde, le passage de la mer Rouge, et enfin la délivrance du moi, la manière dont s'accomplit cet affranchissement par rapport à l'ennemi intérieur, à cette nature dont l'Épître aux Romains nous montre qu'elle mérite la mort et qu'elle l'a reçue à la croix du Seigneur. Et c'est donc le passage du Jourdain qui nous présente ce côté-là. Il y avait 11 journées de chemin, comme le rappelle le premier chapitre du Deutéronome, pour aller d'Égypte en Canaan. Le peuple a mis 40 ans. L'expérience du passage du Jourdain a donc été faite à la fin d'un long voyage, mais pour nous, enfants de Dieu, il est souhaitable que ce ne soit pas à la fin de notre course, à la fin de notre vie terrestre, que nous apprenions enfin que nous sommes délivrés de nous-mêmes. Le Seigneur ne s'est pas seulement occupé des fruits de notre nature, mais de la nature elle-même. Et que, étant mort avec Christ, nous avons la possession, la jouissance présente déjà de ce qu'il y a au-delà. Une vie de résurrection en Christ. Nous savons bien, n'est-ce pas, ce que représente ce passage du Jourdain, franchi en premier lieu par l'arche, figure de Christ. Il s'est tenu dans la mort pour nous, pour que le peuple tout entier puisse traverser ces eaux terribles de la mort. Le fleuve est franchi. Le fleuve a été franchi par le Seigneur, il a connu tous les coups, n'est-ce pas, tout ce que méritait notre nature, et maintenant nous pouvons franchir ce fleuve à sec. Et prendre possession du pays. Ces 12 pierres qui sont laissées dans le fond du fleuve, 12 autres sont placées sur la rive de la résurrection, élevées en un monument, commémoration, rappel de l'œuvre accomplie et de ses conséquences. Ces 12 pierres, on parle des 12 tribus, donc de la totalité du peuple. C'est bien réjouissant de penser qu'il y a là le peuple entier qui est vu à la fois dans la mort et dans la résurrection, si même la réalisation n'est pas à la part de tous. On aurait pu dire, mais voilà, il vient de rappeler, 2 tribus et demie sont restées en deçà du Jourdain. Est-ce qu'on n'aurait pas vu là simplement le nombre de pierres correspondant à celles qui avaient passé? Mais non. Les 12 pierres sont dans le fleuve, les 12 pierres sont sur la rive de la résurrection. Comme pour nous rappeler, l'œuvre est au bénéfice de tous, qu'ils en jouissent ou qu'ils n'en jouissent pas, qu'ils le réalisent ou non. Et aujourd'hui, c'est une vérité importante que l'œuvre du Seigneur est l'œuvre complète, totale, dans toutes ses conséquences, s'applique à tout croyant, à tout racheté du Seigneur, qu'il le réalise ou non. Quelqu'un n'a pas encore saisi ce qu'est l'affranchissement, sa portée pratique, s'est pas emparé par la foi de cette réalité, il n'enlève rien à l'œuvre de Christ par là. L'œuvre de Christ s'applique à lui dans toutes ses conséquences. Pensez bien, bien encourageante.
Très brièvement, il y a bien sûr une grande différence entre le passage de la mer Rouge et le Jourdain. Pour l'Exode, n'est-ce pas, Exode chapitre 14, il y a une expression que nous pouvons noter. Ne craignez pas, dit au verset 13, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. C'est l'œuvre qui a été faite pour vous, nous n'y sommes absolument pour rien. Et nous sommes même étrangers, complètement étrangers à l'œuvre elle-même, nous sommes au bénéfice. C'est une œuvre qui a eu lieu 2000 ans avant notre apparition sur la terre.
une œuvre pour vous. Tandis que, si nous passons à Josué chapitre 3 et au verset 5, Jésus, Josué, dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. » La différence est très nette. Christ est mort pour nous, mais aussi, il y a une mort qui s'applique au milieu de nous. Et c'est ainsi la doctrine de l'affranchissement, de la mortification de la chair, qui est, par l'œuvre de Christ, réalisée une seule fois, car on ne passe qu'une fois le Jourdain. Mais la vérité n'est pas forcément en concordance avec notre marche. Il est vrai que nous sommes morts avec Christ, mais c'est à nous d'abord de le croire, et puis de recevoir cette vérité, et puis avec le secours de la force qui nous est donnée, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, de marcher en ressuscité. C'est pourquoi on ne traversait qu'une fois le Jourdain, mais on allait souvent à Gilgal, et on revenait à Gilgal, où il y avait le mémorial de cette victoire remportée et de cette mort dans laquelle nous sommes passés avec le Seigneur.
Ne peut-on pas dire que à la Pâque, Dieu nous délivre de notre culpabilité. Dieu agit comme juge, satisfaisant à tous les droits de sa sainteté et de sa justice, mais aux dépens de l'agneau, nous épargnant ainsi, et passant par-dessus, je passerai par-dessus. Dieu nous délivre de notre culpabilité, car les fils d'Israël étaient tout aussi bien coupables que les Égyptiens, puisqu'ils étaient devenus idolâtres. Comment Dieu va-t-il accomplir les promesses qu'il a faites à leur père Abraham? Bien, Dieu va trouver dans son amour la ressource qui va satisfaire aux exigences de sa justice. Mon fils, Dieu seul pourvoira de l'agneau. Voilà l'agneau de Dieu, s'écrit la Jean. L'agneau de la Pâque. À la même chose, Dieu nous délivre en quelque sorte de la servitude dans laquelle nous étions plongés, servitude de Satan et du monde. Dieu n'agit plus comme juge à la mer rouge, il agit comme libérateur. Dieu prend contre lui tous nos ennemis, les défait et les engloutit au fond de la mer. Dieu agit à la mer rouge comme sauveur, comme libérateur. Maintenant, au Jourdain, Dieu nous délivre de notre état, de la tyrannie du moi, de ce que nous sommes, comme on en attend, que nous ne pouvons ni modifier ni changer. Car nous le savons bien, le léopard ne peut pas enlever ses taches, ni l'Éthiopien modifier la couleur de sa peau. Ce qui est cher, demeure tel, ne peut être amendé, ni amélioré, ni changer en aucune manière. Nous avons beau faire, tous nos efforts sont stériles, et toutes les batailles que nous livrons sur ce terrain se terminent par des défaites plus cuisantes les unes que les autres. Mais ce n'est pas le chemin. Dieu nous délivre de notre état par la mort. Vous êtes morts. Voilà la déclaration de Dieu. Dieu ne nous dit pas, vous devez mourir. Nous n'avons pas JND et nous n'avons pas assez de force morale en nous pour nous faire mourir, pour contraindre notre nature. Et Dieu n'a pas pu le faire. Dieu a mis l'homme à l'épreuve. Finissons-en avec l'homme. Il n'y a pas de... Quel cas nous pouvons nous faire mourir? Mais Dieu ne nous dit pas de mourir, ce qui serait cruel dans un certain sens, car nous ne pourrions pas aboutir à aucun résultat. Mais Dieu nous dit, vous êtes morts. Donc, comme notre Père l'a fait remarquer, à nous de le croire, sachant ceci, croyant ceci, que vous êtes morts et que Dieu a annulé le corps du péché à la croix, afin que nous vivions en nouveauté de vie. Soyons vainqueurs de cette tyrannie du moi, des convoitises éveillées par Satan en nous, que nous puissions avoir, que nous puissions connaître le secret pour surmonter cela, pour être délivré de notre état. C'est la mort, c'est le jour. Alors, nous avons pensé un petit exemple à l'égard du Jourdain
et du fait que deux tribus et demie ne sont pas passées. Ce sont des croyants, incontestablement, ce sont des fils d'Israël. Dieu ne les enlève pas, ne les règle pas de la congrégation d'Israël. Ce sont des croyants. Comme au temps d'Élie, on arrive au Jourdain, et il y a là, en 2 Rois chapitre 2, il y a là une scène qui nous permet en quelque sorte de nous compter, de nous identifier. On arrive auprès du Jourdain, et deux hommes, Élie et Josué, eux deux, est-il dit, ont passé le Jourdain. Mais il y a deux tribus et demie là aussi, il y a 50 hommes, dont les fils des prophètes. Ce sont des prophètes, ce sont des fils de prophètes, ce sont des croyants, ce sont des fils d'Israël, incontestablement. Mais ils se tiennent, est-il dit, eux, à distance. 50 hommes, mais ils se tiennent à distance du fleuve. Tandis que Élie et Élisée, eux deux, traversent le Jourdain, recommencent en quelque sorte l'histoire d'Israël, mais avec la certitude de la victoire remportée il y a bien longtemps lorsque l'arche est entrée dans le fleuve. Eux deux, une petite compagnie, et 50 hommes, c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus agréable, mais ils se tiennent, eux, à distance du Jourdain. Deux traversent le Jourdain, 50 se tiennent à distance, parce que le Jourdain n'est pas agréable pour la chair. C'est sa mise de côté.
Longtemps arrêté par la brièveté de ce verset que nous avons à la fin du chapitre 7 des Romains. Après ce très long débat intérieur qui pousse celui qui passe par ce chemin à s'écrier « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On peut en effet peut-être être surpris par la brièveté de ce cri, on pourrait dire, de triomphe, n'est-ce pas ? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, on peut dire que c'est tout simplement ceci, c'est que cette délivrance que mon âme était incapable d'atteindre, parce qu'il y avait là, évidemment, ce débat intérieur, le bien que je veux, je ne pratique pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. Eh bien, voilà que la conviction, on peut dire, de la foi s'empare de ce fait, c'est que ce que je cherchais désespérément à atteindre, eh bien, Dieu l'avait déjà fait. Dieu l'avait déjà accompli. Alors, dès lors, ayant saisi cela, c'est-à-dire que, comme on vient de se rappeler, c'est si important, nous sommes morts avec Christ, que cela a eu une des conséquences plus bénies de la croix, eh bien, quel est en somme ce qui est placé devant le chrétien, mais c'est ce que nous aurons, si le Seigneur le permet, dans le chapitre 5 de Josué, c'est-à-dire à nous tenir nous-mêmes pour morts, c'est-à-dire à veiller au secours, en effet, du Saint-Esprit habitant en nous, à ce que toutes les manifestations de la chair soient tenu à leur place, cette place que Dieu leur a donnée, c'est-à-dire dans la mort.
Aux chrétiens et à la vie chrétienne, je crois qu'on peut suivre deux pensées successives. Pour l'histoire d'Israël, les circonstances qui nous sont rapportées entre l'Égypte et l'introduction dans le pays de la promesse, ces circonstances se sont produites successivement, dans un ordre historique, des circonstances qui se sont succédées en séquences successives. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le chrétien pris en Égypte, traversant la Pâque et sortant du pays de l'esclavage par la mer Rouge, il s'agit ici de la conversion. Le désert, c'est la course chrétienne. Les épîtres aux Romains et aux Hébreux en particulier sont des épîtres qui nous parlent du désert. Et le Jourdain, pour le chrétien, serait de ce point de vue-là le terme de la vie chrétienne. Et au-delà du Jourdain, le fleuve de la mort de Christ serait l'introduction dans le repos qui nous a été acquis par l'œuvre de Christ à la croix. Le fleuve du Jourdain regorgeait par-dessus tous ses bords pendant tout le temps de la moisson. Et d'un autre côté, Et c'est la différence essentielle entre le chrétien, la vie chrétienne, sont l'application des circonstances d'Israël aux chrétiens. Eh bien, le Jourdain est, spirituellement parlant, pour nous, l'application maintenant de la puissance efficace de la mort de Christ pour nous délivrer de nous-mêmes et nous introduire dès maintenant, peut-être dans le lieu du combat, mais dans le lieu en fait où nous pouvons véritablement jouir des résultats de l'œuvre de Christ pour nous sur la terre. Et de ce point de vue-là, encore ici-bas, dans le ciel, sur la terre, dans le désert, nous anticipons l'avenir, nous anticipons le ciel et nous anticipons l'éternité.
Dans le désert et en Canaan en même temps, c'est impossible. Tandis que pour nous, en fait, nous pouvons connaître ces trois choses. Le monde, n'est-ce pas le monde, n'est-ce pas l'Égypte, duquel Dieu nous a retirés. Et quant à notre présence, nous sommes encore dans ce monde. Mais nous sommes déjà au désert avec Dieu, quant à nos expériences. Et quant à notre jouissance des choses célestes, nous sommes déjà dans la terre de Canaan. Mais Israël ne pouvait pas être en Égypte, au désert et en Canaan tout à la fois. Ce qui pour nous est quand même une chose que nous vivons conjointement.
Un exercice pour le peuple afin de traverser ce jardin. Nous voyons que il y a eu d'abord toute cette longue préparation, tout ceci pour que nous puissions comprendre que si les croyants, les rachetés du Seigneur, ont bien du mal à réaliser cet affranchissement, on voit que ce n'a pas été non plus chose facile pour le peuple. Il y a d'abord eu cette longue préparation qui est signalée par 7 jours. D'abord dans le chapitre 2 au verset 22, il est parlé de 3 jours, n'est-ce pas, dans le chapitre 3, au verset 2, et il est à nouveau signalé, il arriva au bout de 3 jours. Et puis dans le verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. » 2 fois 3 jours, plus 1 jour, demain 7 jours. Cette préparation avait été nécessaire pour le peuple. Ils ont dû ensuite, n'est-ce pas, regarder partir l'arche. Ils ont dû, ces étapes se sont accomplies successivement les unes après les autres. Ils ont dû ensuite marcher après elle. Ils devaient également se sanctifier. Ils devaient également se sanctifier et suivre les pas des sacrificateurs et mettre leurs pas dans l'empreinte que les sacrificateurs avaient laissée au milieu des fleuves. Tout cela, ils n'en avaient pas tellement conscience. Ce n'est qu'arrivé au milieu du fleuve qu'ils ont vu les merveilles que Dieu faisait pour eux. Combien nous avons besoin d'être attentifs à ce que Christ est pour nous, ce qu'il a fait pour nous dans sa mort à la croix, pour que nous réalisions pleinement que nous sommes morts avec lui et que c'est lui qui a tout fait pour nous, pour notre délivrance.
Lignez quelques expressions dans les versets 4 et 5 du chapitre 3. On va lire ces versets, mais les expressions méritent d'être lignées. 2000 coudées, voilà la distance dont le peuple devait rester séparé de l'arche, à distance, pour laisser là tout le secret entre ce qui s'est passé entre Dieu et Christ à la croix. 2000 coudées, ne rapprochons pas. C'est impénétrable, c'est inscrutable. Et afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher. Deuxième expression importante, connaître ce chemin de l'affranchissement, le réaliser, comprendre toute l'importance pour vous. Nous devons y marcher, nous devons y passer.
ne laissons pas cette expérience de l'affranchissement à quelques chrétiens dont nous pensons qu'ils sont plus avancés dans la vie chrétienne. Mais c'est un passage nécessaire pour la réalisation d'une vie chrétienne telle que Christ l'avait pour nous sur la terre. Vous n'avez pas passé par ce chemin si devant. L'homme ne peut pas y passer. Nous ne pouvions pas le faire avant la conversion. Bien d'abord la conversion, puis l'affranchissement. Saisir par la foi, comme on est, on saisit le pardon des péchés par la foi, on saisit par la même foi, aussi un acte de foi, la pleine délivrance du moi misérable, de tous ses efforts, de toutes ses prétentions, de toute sa confiance en lui-même. Tout cela, nous avons à comprendre par la parole que la maître de Côte. Pleine confiance dans le Seigneur. Et enfin, l'expression du verset 5, l'Éternel fera des merveilles au milieu. S'il y a une chose merveilleuse, il y a une merveille, c'est bien la manière dont Dieu s'est occupé de l'homme. Pas pour l'améliorer, mais pour le mettre entièrement de côté par la mort de Christ. Et la croix restera toujours une chose merveilleuse et aussi une chose insondable.
Ceci a été de par l'Éternel. C'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Psaume 118, verset 23. Il y a là, évidemment, une allusion à l'œuvre de Christ de toute évidence. Car au verset 22, il est la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée. Et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux que cette pierre qui a été rejetée devienne le fondement sur lequel tout repose pour l'éternité. Que ce soit pour le croyant individuellement, pour l'Église, pour Israël, pour les nations, c'est une chose merveilleuse. Et dans le verset cité par notre frère dans Josué 3, ce sont des merveilles, ce sont les conséquences alors de l'œuvre de Christ. C'est une chose merveilleuse, à nul autre pareil, incomparable, dans sa grandeur, dans tout ce qu'elle a pour Dieu. Mais c'est en conséquence pour nous des choses merveilleuses. N'est-ce pas aussi remarquable dans ce chapitre 3, ce détail, entre parenthèses, au verset 15, le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords. Or, nous sommes à Pâques, puisque les fils d'Israël vont célébrer dans Pâques. Nous sommes au printemps, à la fonte des neiges, Pâques, le Jourdain qui regorge par-dessus tous ses bords. Christ, notre Pâques, a été sacrifié. N'avons-nous pas là devant nous, dans ce détail, le Jourdain qui regorge par-dessus tous ses bords, l'effusion de la colère de Dieu à laquelle il a été soumis sans que rien vienne atténuer, néanmoins, ses exigences infinies que lui seul a pu connaître, de la justice et de la sainteté. Souvenons-nous des chérubins qui, dans le temple, ont leurs ailes étendues. La dimension donnée par l'Écriture de ces ailes étendues, c'est la dimension du lieu très saint, intimidé. Les chérubins qui requièrent l'application judiciaire de la justice de Dieu, intimidé exactement la mesure du lieu très saint. Ce sont ces chérubins qui sont à l'œuvre lorsque le prophète dira, il a fait tomber sur lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Soumis au feu ardent du jugement de Dieu, à l'effusion de sa colère, sans que rien intervienne pour l'amoindrir ou pour l'adoucir, Christ a dû payer entièrement. Le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords. La colère divine t'accabla, comme nous le chantons, de tout son poids. Il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Jourdain qui regorge, Pâques, tout ce
cela nous parle avec l'éloquence de la mort de Christ, de ce qu'elle a de solennel et de ce qu'elle entraîne pour nous. C'est là que nous mesurons, nous avons à mesurer toutes les dimensions de la justice et de la sainteté divine. S'écroule complètement, on peut voir là une figure de la victoire totale sur la mort. Les eaux se sont écoulées complètement, et puis le peuple est passé, est-il fait. La mort a perdu son pouvoir, comme nous disons aussi, et maintenant nous ne sommes plus comme les hommes de toute notre vie, assujettis à la servitude par crainte de la mort. La mort, et nous en sommes non pas délivrés, mais nous avons passé au-delà. Nous sommes au-delà de la mort.
Là, il mentionnait pouvoir dans ce chapitre 3. Maintenant, Christ a été mis à la place de ses proches. Voyons cette expression dans Jérémie 3, au verset 16. Il est dit, et il arrivera que quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne montera plus le cœur et on ne s'en souviendra plus, et on ne fera plus cela. Par contre, on la voit réapparaître, n'est-ce pas, dans Apocalypse 11, au verset 19. Il est dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son milieu.
Excellence des gloires fondues ensemble, Hébreu 1 et Hébreu 2, à la fois Dieu lui-même et l'homme tel que nous le sommes fait sans péché. La divinité toute-puissante, resplendissement de la gloire de Dieu, empreinte de sa substance, d'une part, et d'autre part le Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Lui-même venant participer au sang et à la chair, mais sans aucune trace de souillure, et unissant dans sa sainte nature à la fois Dieu dans sa grandeur et l'homme dans sa faiblesse, l'humanité dépendante unie à la divinité toute-puissante, mais mystère que personne ne peut sonder. Un homme qui a faim, qui a soif, qui a besoin de se livrer au sommeil. Un homme qui est lassé du chemin, s'asseyant auprès de la fontaine de la forme, mais jamais lassé dans son cœur. Dieu était en fils. C'est l'arche. Il n'y a plus besoin de la refaire. Car celui qui en est l'antitype, glorieux, a été manifesté et il nous vive sa gloire. Une gloire comme d'un fils unique venant de la part du Père. Mais dans le livre d'Apocalypse, quelqu'un dit, Dieu suppose bien que nous avons lu sa parole et que nous comprenons la portée des symboles qu'il emploie. Nous ne pouvons pas comprendre le dernier livre de la sainte parole de Dieu sans avoir lu le livre tout entier. Et l'Apocalypse fait appel à notre connaissance de ce que nous avons retenu dans les livres précédents et emploie de nombreux symboles. Et l'arche est là pour nous montrer le fondement éternel de l'alliance conclu entre Dieu et son peuple, et la terre, et la création. Elle apparaît dans le ciel pour nous montrer que depuis le commencement, Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il a faites, et qu'il établit et qu'il réalise dans leur entièreté et à sa propre gloire, et pour le bien de ceux qui en sont des objets, en vertu de celui qui a été l'arche un jour. Vrai Dieu et vrai homme, pas de citer nous. Amen.
plaquée d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et recouverte par le propitiatoire, ce qu'il allait être dans sa personne et ce qu'il allait être dans l'efficace de l'œuvre accomplie, le sang était porté sur le propitiatoire. Il est entré dans les lieux saints avec son propre sang.
Ce passage avait eu lieu une fois pour toutes, mais le souvenir en était perpétué. Il en est ainsi de l'œuvre de Christ. Et le Jourdain est franchi là. Les pierres sont en témoignage que l'œuvre n'est plus à faire. Et la question doit être posée par les enfants d'Israël, verset 6, dans l'avenir du chapitre 4, que lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant que signifie pour vous ces pierres, alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance. Nous avons ces questions à propos de la Pâque, chapitre 12 du livre de l'Exode. Nous avons chapitre 13 aussi, à propos de la fête des pains sans levain et de l'appartenance des premiers-nés à l'Éternel. Nous avons aussi dans le chapitre 6 du Deutéronome des questions qui sont posées. Il est bon de se poser des questions. C'est une chose qui traduit un besoin et qui appelle des réponses, appuyées sur l'écriture. Nous devons savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, l'ignorance. Et c'est toujours coupable parce que nous avons à la réponse de Dieu. Une personne qui ne se pose jamais de questions, chrétien doit s'en poser des questions en relation avec le sens profond des faits qui sont ainsi scellés. Encourager notre jeunesse, les enfants qui sont ici, à poser des questions. Que signifie pour vous ces pierres, ce mémorial sur la table, ce que vous faites dimanche après dimanche? Mais nous notons le pour vous. Nous avons aussi à propos de la Pâque. Que signifie pour vous ce service, Exode 12? Pour vous. Pas une tradition, une habitude, quelque chose qu'on fait sans en comprendre la portée, mais est-ce que cela a un sens pour vous personnellement? Est-ce que cela a une portée pour votre cœur? Dans cette mesure-là, que le témoignage aura sa pleine portée sur ceux qui auront posé la question.
Il a mis en Israël une loi
Il a commandé à nos pères pour que les fils connaissent leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent, et qu'ils se levassent et les annonçassent à leurs fils. Les générations donc passent, et la responsabilité de la génération qui va passer, c'est de transmettre en effet le témoignage. Non pas que la parole de Dieu ne soit pas suffisante, mais il y a une responsabilité certainement pour ceux qui ont avancé dans le chemin de, et qui ne sont pas, qui ont plus que quiconque compris combien leur chair était faible et malheureusement s'est manifesté beaucoup plus que on aurait voulu face à ce verset de Cantique, Seigneur, si mes pieds ont mille fois laissé mille traces dans la poussière. C'est le témoignage de quelqu'un qui est arrivé à la fin de sa vie. Eh bien, c'est le rôle des anciens, en effet, d'avertir les jeunes qu'ils ne se découragent pas. Ils ne se découragent pas parce que quand on lit Romains chapitre 7 et qu'on voit ce combat terrible, sans... eh bien, c'est déjà un signe que la vie divine est là, car il est de... Il est absolument des observations courantes dans la vie quotidienne. Moi, j'ai de nombreux contacts humains. Et c'est flagrant. Quelqu'un qui se complaît dans le péché sans aucune. Avec toute aisance. Et c'est ce que disait un autre frère, la truie se porte au fumier. Et un autre homme, par faiblesse, on sera dans les mêmes manquements. Ce sera un combat intérieur affreux, ce sera Romain qui le possède, ce sera déjà le signe qu'il y a la vie divine, on ne perd pas son salut. Mais grâce à Dieu, nous avons la victoire, mais c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous voyons dans le Romain 15, et la victoire nous est donnée, assurée, vu que